une rediffusion.
Autour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur nos échecs aujourd'hui. Pourquoi on rate? Comment on se plante? Et surtout, pourquoi tant de grands esprits, chercheurs, penseurs, artistes ou sportifs, ont eux aussi essuyé de nombreux revers avant de réussir et de s'accomplir? Et si l'échec était aussi une chance, une occasion en tout cas, de nous confronter au réel et à notre désir profond? Et si l'homme était par essence un animal qui rate, et si bien plus que les succès, c'était les échecs qui nous mettaient sur la voie de la sagesse? Autant de questions ouvertes par notre invité, le philosophe Charles Pépin, dans un essai inspirant et stimulant sur les vertus de l'échec, autour de la question comment changer de regard sur nos échecs. Bienvenue. Bonjour Charles Pépin.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager les vertus de l'échec. C'est le titre de votre avant-dernier essai paru aux éditions Alary. Le tout dernier, c'est la confiance en soi. Et on verra que l'une ne va pas vraiment sans les autres, sans ses échecs, que vous nous invitez, Charles, à considérer autrement, à la lumière de la philosophie, mais aussi à travers des parcours de vie de Thomas Edison à Nelson Mandela, en passant par Einstein, Madonna, Raphaël Nadal ou Barbara. Comment tous ces grands hommes et ces grandes femmes ont essuyé de cuisants revers avant de s'accomplir. Car si l'échec, au fond, est bien au cœur de nos vies, de nos angoisses, comme de nos réussites, il est pourtant peu traité par la philosophie. Pourquoi et comment le philosophe et écrivain que vous êtes a-t-il choisi de s'y intéresser?
Je pense qu'à la base, il y a eu quelque chose d'un peu, on va dire, entre guillemets, savant. C'est la lecture de Gaston Bachelard, qui est un épistémologue qui montre que...
Philosophe des sciences.
Voilà, poète aussi d'ailleurs, et qui montre que la vérité est toujours une erreur rectifiée. Donc j'ai été très intéressé par cette dimension de l'histoire des sciences, et notamment fasciné par ce qu'il dit, à savoir que la seule manière de mettre en évidence une vérité est de rectifier une erreur. C'est pas qu'il y a deux manières, une manière directe, intuitive, et une manière par rectification de l'erreur initiale. C'est que, comme dans un billard à trois bandes, on doit passer par les bandes sans quoi on ne peut pas réussir le coup, eh bien, on doit commencer par se tromper pour trouver là l'énergie d'un rebond, d'une rectification.
Donc, pas de réussite sans échec, en fait.
Ouais, hein. Et c'est ça qui est, et même sans erreur. Pour l'instant, c'est plutôt une erreur. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça nous permet d'entendre autrement le proverbe bien connu, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine, mais la répéter est diabolique. En fait, ça ne veut pas dire que l'erreur est tolérable ou pardonnable. Ça veut dire qu'elle est la manière normale d'apprendre. Elle n'est pas accidentelle. Elle est essentielle.
Justement, question de vocabulaire, vous parlez d'échec, là vous parlez d'erreur. C'est quoi la différence entre justement un échec, une erreur, ou alors un ratage, un plantage?
C'est le sentiment de l'échec. C'est-à-dire qu'en gros, il y a pas mal de situations où on rate, ou alors on se trompe, on fait une erreur, ou même une faute morale, mais on n'a pas de sentiment d'échec. Par exemple, si on est un entrepreneur audacieux et qu'on sait qu'on tente quelque chose de risqué, on peut tout à fait échouer, mais ne pas avoir de sentiment d'échec. Enfin, pardon, on peut rater son but, mais ne pas avoir de sentiment d'échec. Parce que ça fait partie du sens du risque et du champ du possible. En revanche, quand on se trompe, quand il y a un décalage entre le but visé et le résultat obtenu, et qu'on a un sentiment d'échec, alors ça s'appelle un échec. Autrement dit, c'est le sentiment d'échec qui métamorphose l'erreur en échec. Et ce qui est intéressant, c'est
et qui peut le métamorphoser en réussite plus tard, après.
Évidemment. De toute façon, l'idée, c'est dans tous les cas de faire de ça une réussite, enfin d'essayer. Et ce qui veut quand même aussi dire quelque chose d'important pour les gens sur un plan existentiel, c'est que ce sentiment d'échec est intéressant. Il ne faut pas le refouler, il ne faut pas le balayer, il ne faut pas le combattre, parce qu'il nous indique ce qui est important pour soi. Il nous indique ce qui compte. Si, par exemple, vous divorcez, que vous avez un sentiment d'échec, tout le monde vous dit « mais non, à Paris ou ailleurs d'ailleurs, il y a un divorce sur deux, un divorce sur trois, mariage, tu ne devrais pas le prendre comme ça », il ne faut pas écouter ces petites voix, parce que si vous le prenez mal, si vous avez un sentiment d'échec, alors c'est à la condition d'entendre ce qu'il dit de votre désir, de votre ambition, de votre idéal, que vous pourrez mieux réussir après. Mais si vous ne l'entendez pas, parce que vous êtes tout le temps dans une obsession de la psychologie positive pour ne pas accepter le sentiment qui fait mal, alors vous ne vous comprendrez pas mieux et vous ne progresserez pas. Et donc, vous ne réussirez pas, au fond.
Oui,
vous ne réussirez pas parce que vous n'aurez pas réussi à entendre ce que vous souffle votre sentiment d'échec.
Oui, pour en tirer une leçon, il faut bien l'entendre. On en arrive aussi à l'étymologie intéressante, oui. Elle aussi, de ce mot échec. Rappelez-nous, faites-nous découvrir son étymologie.
Il y en a plusieurs. Et comme souvent avec l'étymologie, on peut faire son marché. Il y en a deux que j'aime pas et une que j'adore. Deux que j'aime pas, c'est l'étymologie arabe et persane. C'est en arabe al-shek mat, ça a donné échec et mat, le roi est mort. Et en persan, shamat, échec et mat, aussi, le roi est mort. Évidemment, c'est ce que je combats. C'est cette impression que parce que j'échoue, le roi en moi est mort. Cette essentialisation, cette identification, c'est tout ce que je combats. Donc méfions-nous de cette étymologie-là. Et ce que je montre dans mon livre, Les vertus de l'échec, c'est que bien souvent, le roi se révèle à l'occasion de l'échec, à l'occasion de l'adversité. Bien au contraire de cette étymologie. Pour du coup préférer l'étymologie du vieux français « échec », du XIe siècle, qui veut dire « butin ».
C'est notre butin. Voilà. Nos échecs sont notre butin.
Vous savez, ça a plusieurs sens. Il y a le butin du voleur, il y a le butin du combattant qui prend à l'ennemi, et puis il y a le butin du monsieur qui travaille sur les ruches, j'ai oublié son nom, apiculteur. C'est la récolte, en fait.
Ouais, il en fait son miel.
C'est ça, très bien, et vous avez raison. Enfin, pardon, j'ai un réflexe de prof, je vous dis très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les trois cas, il y a l'idée de quelque chose d'un peu dur, mais qui produit un résultat. Voilà. Il y a un butin arraché à l'adversité.
Autour de la question comment arracher à l'adversité ce butin, comment changer de regard sur nos échecs, on va peut-être commencer par avancer quelques pions sonores sur notre échiquier à nous, sur RFI. C'est le mix échec et mat d'Hugo Violas, dans lequel vous reconnaîtrez certainement Charles Pépin. Quelques citations.
Si par malheur vous avez raté le fameux bac, il vous est toujours possible de redoubler. Et puis il y a tout de même une vie tout court et une vie professionnelle sans le bac, contrairement à ce que certains pensent.
Attendez, je ne vais pas rester sur un échec, j'ai une réputation à soutenir, moi.
Vous devez vous battre pour atteindre l'échec. Et l'échec passe par une mauvaise hygiène de vie.
Je n'ai pas échoué des milliers de fois. J'ai réussi des milliers de tentatives qui n'ont pas fonctionné.
Genève, loin devant. Attention. Attention, Kostadinov.
Oh, but. Oh
là 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 là.
C'est la fin pour l'équipe de France.
Je ne perds jamais. Je gagne ou j'apprends.
Einstein avait tous les critères d'être un enfant en échec scolaire. Et la plupart de ses professeurs pensaient qu'il n'arriverait à rien.
Saviez-vous que l'échec passe avant tout par un emploi mal maîtrisé ? Donc, notre premier conseil est bien entendu d'aller vers quelque chose d'inconnu, vers quelque chose dont vous êtes sûr de ne pas maîtriser. Et là, l'échec vous sourira.
Déjà essayé, déjà échoué, peu importe. Essaie encore, échoue encore, échoue mieux.
C'est Samuel Beckett, vous nous le rappelez, Charles Pépin, dans Les vertus de l'échec, qui nous conseille d'échouer encore et d'échouer mieux. Magnifique.
Oui, alors il faut bien comprendre l'enjeu de cette très belle phrase. Hein. Tu as échoué, essaye encore, échoue encore, mais échoue mieux. Et on peut l'entendre par rapport au proverbe qu'on a évoqué tout à l'heure, l'erreur est humaine, mais la répéter est diabolique. En fait, ce qui est diabolique, c'est de répéter l'erreur à l'identique. C'est-à-dire, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de bifurcation, donc il n'y a pas de sagesse de l'échec. Mais en fait, souvent, quand on croit qu'on répète un échec à l'identique, par exemple, des vies de couple qui ratent successivement, des métiers qui se passent mal, des compétitions de sport, etc., très souvent, on n'est pas assez attentif. Et si on était attentif à ce qu'on a vécu, à sa singularité, à son chemin, on s'apercevrait qu'au fond, on a progressé dans le ratage. C'est-à-dire que, comme on a une pensée binaire dichotomique, on ne voit que deux cases, j'ai réussi ou j'ai raté. Donc dans ce cas, on a encore raté. Mais si on regarde vraiment, en sortant de la pensée dichotomique, on s'aperçoit qu'on a peut-être encore raté, mais de mieux en mieux. Ce qui veut dire qu'on est déjà en train de réussir. Et c'est ça le propos de mon livre, c'est de sortir d'une pensée dichotomique, d'une pensée binaire,
noir ou blanc.
Voilà, et de penser que, de comprendre qu'en fait, bien souvent, on a en même temps l'échec et le succès. D'ailleurs, un acte manqué en psychanalyse, par exemple, c'est à la fois un échec du point de vue conscient et une réussite du désir inconscient. Si par, exemple, je veux être peintre et que je rate mon bac, en fait, je réussis à me rapprocher de ma vocation cachée, de mon désir inconscient.
Donc, il faut écouter nos échecs. Oui, parce que les échecs ne sont pas toujours les échecs. C'est parfois, on échoue parce qu'on n'est pas dans une vérité aussi.
Parfois, on échoue parce qu'on réussit à se rapprocher de sa vérité. C'est-à-dire que, regardez Michel Tournier, il a échoué 4 ou 5 fois à la grecque de philo. Et un an après, il a eu le prix Goncourt à l'unanimité pour son premier roman. Donc, peut-être qu'en vérité, il a, en échouant à la grecque de philo, dans sa carrière universitaire, il a commencé déjà à réussir sa carrière de romancier.
Vous citez aussi, côté scientifique, Thomas Edison, hein, avant d'inventer l'ampoule électrique. Un de ses collaborateurs lui aurait demandé comment il a pu supporter autant d'échecs, des milliers d'échecs. Et Thomas Edison lui aurait répondu « Je n'ai pas échoué des milliers de fois, j'ai réussi des milliers de tentatives qui n'ont pas fonctionné. »
Alors cette belle phrase nous montre un changement de regard sur l'échec. C'est-à-dire « J'ai réussi à tenter, j'ai réussi à essayer. » J'ai réussi à oser, mais surtout dans le cas d'un savant comme Thomas Edison, en l'occurrence, on parle là de l'invention de l'ampoule, hein, et ça va finir par marcher, il est émerveillé par ce ratage, parce qu'à chaque fois, ça lui en apprend un peu de la structure du réel et au fond de sa science. Et Einstein aussi disait que quand on a une théorie et qu'on fait une vérification expérimentale, la réussite de la vérification ne prouve pas que la théorie est vraie. Mais l'échec de la vérification prouve qu'elle est fausse. Donc on a toujours cette idée qu'en fait, du point de vue de la science, du point de vue des savants, en fait, c'est l'échec qui nous fait toucher le réel, qui est une expérience du réel et au fond qui nous en apprend. Ce que je résume dans mon livre en disant qu'il y a une sagesse de l'échec alors qu'il n'y a qu'une ivresse du succès.
Je propose, puisque... En général, et avant de lire votre livre, les échecs en France, en tout cas, c'est plutôt mal vu. Je propose de réfléchir à cette question autour d'une nouvelle question soulevée cette fois-ci par Cécile Lestienne du mensuel Cerveau et Psycho.
Dans le système scolaire actuel, il me semble que l'erreur et l'échec sont toujours sanctionnés. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne attitude pédagogique pour faire progresser les enfants ?
Votre réponse, Charles Pépin, en tant que professeur de philo.
D'abord,
aussi,
heureusement, certaines erreurs ou certains échecs sont évidemment pas sanctionnés méchamment et peuvent être soulignés comme révélant la possibilité d'une réussite future, heureusement. Mais c'est trop rare. Et évidemment, l'école française n'est pas du tout un bon exemple hein, de ce point de vue-là. Je voudrais rappeler que du point de vue des neurosciences, justement, on a prouvé maintenant que quand on se trompe, le cerveau prédit l'erreur juste avant qu'on la fasse. Et entre le temps où il l'a prédit et le temps où on l'a fait, donc un centième de seconde, c'est là qu'il est intelligent, parce qu'il produit un schéma alternatif. C'est là qu'il est créatif, parce qu'il essaye d'éviter l'erreur. Donc au fond, il y a une relation totalement consubstantielle entre le fait de faire des erreurs et l'intelligence et la créativité. En gros, un enfant qui ne ferait jamais d'erreur ne serait pas intelligent et pas créatif.
L'homme est un animal qui rate. L'homme voilà, serait peut-être
donc,
un animal
donc,
qui rate.
Du coup, pour répondre à votre question... Il faudrait quand même donner des petits cours de neurosciences et de philosophie épistémologique à pas mal de profs de collège ou de lycée et à pas mal d'instituteurs ou d'institutrices pour leur expliquer que l'erreur que fait l'enfant ne doit pas être sanctionnée comme un écart par rapport à la norme, mais encouragée comme une étape dans un processus normal d'apprentissage.
Alors encourager France, l'erreur en France, c'est vraiment pas le cas. C'est un problème français
L'encourager, oui, à la condition quand même que ce soit une erreur intéressante. Mm-hmm. Il faut quand même dire qu'elles ne le sont pas toutes. Mm-hmm. Vous avez des erreurs ou des échecs qui sont liés à la paresse, qui sont liés à l'absence de créativité, à l'absence d'audace. Et vous avez, je vois bien en tant que prof de philo, des erreurs ou des échecs qui sont liés à trop de personnalité, à trop de singularité, comme un contresens passionnant, comme un hors-sujet passionnant. Et nous avons le devoir, je pense, les professeurs, de distinguer les deux et de ne pas mettre la même mauvaise note à un ratage original, singulier, audacieux, prometteur et à un ratage médiocre, comme il y en a aussi. Donc notre mission est de ne pas rater les ratages intéressants, de ne pas rater les ratages prometteurs. Le problème, c'est qu'il faut du temps pour ça. Plus de temps et donc plus d'argent, être mieux payé. Parce que quand vous avez 30 copies, bah c'est facile de les noter hyper vite et de noter l'écart par rapport à la consigne et à la norme. Ça va vite. En revanche, si vous devez vous intéresser à la singularité et à ce que chaque copie promet, fût-elle ratée comme réussite future, ça prend à peu près 5 fois plus de temps.
Mais ce qui veut dire aussi, Charles Pépin, que notre singularité, elle se voit, elle se lit aussi dans nos échecs, peut-être même plus ou dans nos réussites.
Elle se vit plus, bien sûr. Vous avez vu en France tous ces gens qui réussissent sans singularité. Je ne citerai pas de nom d'entreprise, mais il y en a quand même beaucoup. Elles sont au CAC 40 souvent. Et vous avez des bons élèves français qui vont faire une belle carrière après avoir fait une bonne prépa et une bonne école, et qui auront réussi au prix de quoi ? La pure négation de leur singularité, l'acceptation d'une norme et le fait de savoir mettre ses pas dans les pas de ceux qui nous ont précédés. Il y a évidemment une prime en France à la non-singularité. Enfin, je parle en général, j'ai pas le choix, on pourrait entrer dans le détail après. Et bien sûr, on s'aperçoit souvent qu'il y a des êtres trop singuliers qui vont se retrouver en échec parce que le système n'est pas fait pour eux. On voit bien que beaucoup d'entrepreneurs ont été en échec scolaire. Beaucoup d'artistes, de chanteurs, de créateurs, de sculpteurs ont été en échec scolaire.
Mais voilà pourquoi vous en citez d'ailleurs beaucoup.
Et il faut que ça change, parce que on ne peut pas comme ça, on ne peut pas être un pays de moyens bons et qui rogne les singularités. Autrement, on va continuer à décliner. On décline depuis longtemps à cause de ça.
À cause de ça ?
Bah oui, bien sûr, à cause de ça. À cause. En fait, on est en crise au sens où on n'est plus capable de faire monter les meilleurs et de les aimer et d'aider les plus fragiles et les plus singuliers. Et en fait, on a l'idéologie de la norme. En fait, c'est les process en entreprise, c'est le bic rouge au lycée et c'est le conformisme que les réseaux sociaux favorisent. Voilà, tout ça est ce contre quoi nous devons lutter, vous à la radio, moi en tant que prof, en tant que père. C'est important de dire aux gens, vous préférez quoi au fond ? Rater d'une manière originale ou réussir comme tout le monde ?
À méditer autour de la question comment réussir nos échecs à l'écoute de Bob Dylan sur RFI. Vous nous direz pourquoi, Charles Pépin, vous avez choisi précisément cette chanson-là, Like a Rolling Stone.
Autour de la question.
Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal?
Like a Rolling Stone, Bob Dylan sur RFI. Charles Pépin, raconte-nous l'histoire de cette chanson. Pourquoi
c'est illustre les vertus de l'échec. C'est l'histoire d'un gigantesque ratage. Mm-hmm. Parce que Bob Dylan était très déprimé à cette époque-là. Il n'était pas en état d'enregistrer. Il y a beaucoup de musiciens qui ne sont pas arrivés. Il y en a un que sa femme a quitté le matin et qui était complètement dégoûté. Il n'arrivait pas à jouer. Il y en a un autre qui a remplacé à l'orgue quelqu'un qui n'était pas venu alors qu'il n'avait jamais fait d'orgue.
Le bon plantage.
Et donc ça a vraiment raté. Et finalement, comme ils avaient tous une forme de compétence, eh bien ce ratage les a délivrés de quelque chose et ils se sont mis à faire autre chose. Ils ont bifurqué par rapport à ce qui a été prévu et ça a fait une chanson qui a duré 6 minutes alors que les radios passaient que des chansons de 3 minutes. Une chanson originale, singulière, et ça a été un gigantesque succès qui n'aurait jamais été possible s'ils avaient au début réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Manière de dire que parfois l'échec, en fermant une porte, en ouvre d'autres. en fermant une porte, ouvre des fenêtres. En barrant une rue, indique d'autres chemins d'existence. Et musicalement, ça se voit quand vous avez quelqu'un qui change d'instrument. Là, on a entendu quelqu'un dans la chanson qui joue de l'orgue, enfin de l'organon. Il n'avait jamais joué de clavier. C'était un très bon musicien, mais il n'avait jamais joué d'orgue. Et donc, il découvre quelque chose de nouveau parce qu'il y a un échec qui a fermé une porte précédemment. Ouais, et ça montre aussi que dans la vie, le champ du possible est parfois plus ouvert qu'on ne le croit. Et finalement, on n'est pas tenté d'aller explorer d'autres chemins d'existence, d'aller visiter ce champ du possible si on a le confort du succès. C'est-à-dire que c'est aussi le coût du succès. On parle des vertus de l'échec, mais il faut parler aussi du coût du succès.
Parfois, qui nous arrête ou qui nous empêche ou qui nous fait pas aller voir ailleurs.
Tout
justement.
Simplement, beaucoup de gens qui nous écoutent le connaissent, ce coût du succès. Bah, je suis quelque part où je réussis bien, alors pourquoi je changerais? Mais finalement, à force de ne pas changer, je vais tout droit vers la retraite et vers la mort. Et je n'aurais connu que ça, au fond, une seule voie, un seul chemin. Alors que, comme le disait très bien Sartre, plus tu échoues, plus tu existes. C'est-à-dire quand tu échoues et qu'une porte se ferme, bah, c'est l'occasion d'aller explorer un autre chemin d'existence. Ce que j'appelle dans mon livre la vertu de bifurcation.
La vertu de bifurcation.
Ouais, il est très difficile
grâce à
de bifurquer quand on n'échoue pas. C'est très difficile. D'ailleurs, on voit bien des gens qui sont dans des entreprises, qui sont cadres, qui ont un salaire correct, une fonction sociale. Peut-être qu'ils s'ennuient, qu'ils ne se réalisent pas, ils n'ont pas l'impression de poursuivre leur étoile singulière à travers ce poste. Mais c'est trop dur de. Il faut beaucoup de courage pour bifurquer alors qu'on n'y est pas contraint par l'échec. Et l'échec, souvent, nous offre la chance d'aller voir ailleurs.
Et ça s'applique alors au niveau individuel, évidemment, mais est-ce qu'on peut l'appliquer aussi au niveau collectif, dans nos sociétés, dans les crises qu'on traverse aujourd'hui? Est-ce que les crises, ça peut parfois être une les échecs, une chance, les ratages, une chance, et ce qui nous attend, ou toutes les crises qui nous menacent aujourd'hui?
Par exemple, là, on a une crise de la République française. Qui est douloureuse, mais qui peut être une occasion de réinventer quelque chose. Donc évidemment qu'on peut exporter à la question du collectif cette question de la crise individuelle qui est l'occasion d'une lumière, d'une bifurcation. Ça me rappelle cette belle parole de Leonard Cohen dans la chanson Anthem qui dit « There is a crack in anything, that's how the light goes on ». C'est-à-dire qu'il y a une fêlure dans toute chose, c'est par là que passe la lumière. Et c'est ça aussi l'image...
Par la fêlure, par l'échec, par ce qu'on rate,
par ce qu'on réussit. Par l'ouverture dans le réel. C'est-à-dire que
l'ouverture dans le réel, c'est ça. Vous dites aussi, vous citez un philosophe stoïcien, Marc Aurèle, le contraire de la sagesse, ce ne serait pas l'échec, mais ce serait le déni du réel.
Oui, c'est-à-dire que quand j'échoue, je suis bien obligé de constater que le réel est là. C'est-à-dire, le réel, ce n'est pas quelque chose que je peux modeler à loisir. C'est quelque chose qui me résiste, qui a sa consistance, sa tessiture. Et d'ailleurs, quand un savant échoue à vérifier une théorie, il se rend bien compte qu'il y a une réalité et qu'elle est là. Les faits sont têtus, comme on dit. Et c'est ça la sagesse, c'est d'accepter que le réel est là. C'est ça aussi l'humilité, de sortir du fantasme de toute puissance. Et bien tout ça, on n'arrive pas à le faire quand on ne fait que réussir. On a la tête qui enfle, on a l'ivresse du succès, c'est très agréable, mais dangereux. Et surtout, on rencontre moins le réel dans le succès que dans l'échec. Prenons un exemple très concret sur un terrain existentiel. Si vous enchaînez les succès professionnels, affectifs, vous avez des super enfants, tout va bien, vous êtes heureux en couple, vous gagnez plein d'argent et tout. Bon, ok. Mais qu'est-ce que c'est que votre réalité? Est-ce que vous vous arrêtez pour vous demander à quoi vous aspirez vraiment? Est-ce que vous vous demandez quel est votre désir profond? Non. Mais par contre, quand ça ne va pas très bien, que vous faites une dépression, que c'est dur, mais au moins vous vous posez la question de ce à quoi vous aspirez. Et on s'aperçoit que l'être humain a du mal à se demander comment il marche quand il marche bien. Mais quand il ne marche pas, il se demande comment il marche. C'est quand ça ne marche pas qu'on se demande comment ça marche.
Ça marche au niveau de la santé aussi, c'est la même chose. C'est quand on est malade qu'on se rend compte qu'on est bien en mode santé.
Mais évidemment, et c'est comme ça aussi que la médecine a progressé, par l'étude des maladies. C'est comme ça qu'on a compris le capitalisme, par l'étude de ces crises. Les crises cycliques du capitalisme qui montrent que, comme l'avait dit Marx, ce système produit ses propres contradictions, qui fait qu'il est toujours appelé à se dépasser lui-même et à s'auto-détruire, au fond. Même si là, on n'a rien de mieux pour le remplacer. Et donc, ça veut dire que la crise, en grec, krinein, c'est la séparation, c'est la déchirure. C'est aussi le moment où une fenêtre s'ouvre pour que je puisse analyser. D'abord, comprendre, en fait. Comprendre.
M'arrêter,
toucher.
J'ai pas le choix.
Toucher le réel, quoi. L'expérimenter. Et puis, peut-être, après, trouver là un point d'appui pour repartir, pour rebondir, ou alors pour changer de voie.
Peut-être, quand même. Tout ça, ça reste en point d'interrogation autour de la question comment changer de regard sur nos échecs en votre compagnie, Charles Pépin. Nouvel éclairage d'un scientifique, c'est le paléontologue Francis Duranton qui dirige le Muséum de Toulouse et qui était récemment notre invité de retour d'une mission de fouilles en Namibie. On l'écoute.
L'échec, je crois qu'à un moment ou à l'autre, on le connaît tous dans différents aspects de notre vie. Je crois que l'échec, c'est ce qui permet de progresser. C'est-à-dire que quand les choses se passent normalement et qu'on vogue de succès en succès, bon, on apprend, mais finalement, on n'apprend pas grand-chose. On continue sur une lancée. Par contre, l'échec, ça oblige à se re-questionner, à se remettre en cause, à repenser différemment, à se repenser parfois aussi. Et c'est donc quelque chose qui permet aussi le travail sur soi que ne permet pas le succès. Donc l'échec, il est essentiel dans la constitution d'une personnalité, dans l'évolution d'une personnalité. Ensuite, l'échec en science, c'est aussi voilà, le fait de ne pas trouver quelque chose. Est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est un résultat ? Comment on le transforme ? C'est-à-dire, si par exemple, dans les missions que nous menons, nous ne trouvons pas de fossiles, certes, ce sera un échec parce que l'objectif pour lequel nous sommes partis n'est pas atteint, mais en même temps, ce sera aussi un résultat qui permettra à d'autres de ne pas partir sur cette piste-là pour eux aller ailleurs et y mettre de nouvelles hypothèses. Donc l'échec, il est toujours dual, il a un côté Janus, il est à la fois positif et négatif. La seule chose qui est importante pour l'individu, c'est d'arriver à passer au-dessus de l'échec et donc d'être capable de se remettre en cause.
Vous voulez commenter cet éclairage du paléontologue Francis Duranton,
Charles Pépin ? Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec lui. L'échec est une expérience au fond. Et il est très difficile de s'arrêter pour analyser le réel quand on n'échoue pas. D'ailleurs, on l'a tous vécu dans notre vie privée, dans les entreprises. Reconnaissons que la première idée qui nous vient à l'esprit quand on réussit, ce n'est pas de s'arrêter et de faire une réunion pour savoir pourquoi on a réussi. D'ailleurs, je peux aussi témoigner en tant qu'auteur. Moi, j'ai fait 13 livres et il y a eu beaucoup plus d'échecs que de succès. Et il y a eu quelques gros succès. Et je peux témoigner du fait qu'à aucun moment, je me suis arrêté pour essayer d'analyser ce succès. J'en ai profité, j'en étais content, et j'ai été content d'être un cadeau de Noël, et puis voilà. En revanche, quand il m'est arrivé aussi de passer, je sais pas, 3-4 ans sur un livre, et un livre d'ailleurs que j'estime comme un de mes meilleurs, et ce livre n'a rencontré que très peu de lecteurs, très peu de critiques, à part des critiques négatives, aucune traduction.
Vous luttez avec le sourire en plus.
Ouais, oui, non, mais donc c'était intéressant, et là, ça fait mal, évidemment, et là, on se pose des vraies questions. C'est-à-dire, pour qui j'écris ? Pourquoi j'écris ? À qui je m'adresse ? Visiblement, il n'y a personne en face, mais moi, à qui je m'adresse ? Et ces questions m'ont beaucoup plus fait progresser que l'ivresse du succès que j'ai connu avec d'autres titres. Mmh. C'est évident, enfin, ce que je dis, quoi. Et d'ailleurs, ce qu'il faudrait dire aussi, et je peux témoigner par rapport à ce parcours d'auteur, c'est qu'au fond, chaque échec est produit l'enfant du succès qui est après. Puisque les livres que j'ai faits qui ont marché, ils ont été des livres que j'ai pensé à l'occasion de l'analyse de l'échec d'un livre passé. Et on s'aperçoit que les psychologues nous demandent souvent de faire des frises chronologiques et de mettre, depuis l'âge de l'adolescence jusqu'à maintenant, tous nos échecs, tous nos succès sur une frise chronologique. Et c'est assez récurrent, ce qu'on observe, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a souvent un échec, un succès, un échec, un succès, un échec, un succès. Et même quand on analyse, on s'aperçoit que, au fond, tous les succès sont des résultats des échecs d'avant.
Ça répond à une question d'un de nos auditeurs sur les réseaux sociaux qui nous écrit depuis Bangui en Centrafrique et qui disait, mais au fond, est-ce que dans la vie, on a plus d'échecs ou on a plus de réussites ?
La question, je ne peux pas chiffrer. Je pense qu'une vie, c'est une succession d'échecs et de succès. Mmh. Et la sagesse, c'est de comprendre qu'on doit plus à ses échecs qu'à ses succès. Alors après, on peut quand même devoir aussi beaucoup à ses succès à la condition d'avoir la même perspective sur les succès que sur l'échec, c'est-à-dire de les questionner, de les analyser et de se demander non pas ce qu'ils disent notre vérité, ne pas s'identifier à eux, mais se demander ce qu'on peut en faire dans l'aventure d'une existence qui continue à évoluer. C'est-à-dire que dans ce cas-là, si on a cette attitude, c'est aussi ce que disait monsieur le paléo-anthropologue, si on a cette attitude, tout est expérience. C'est pas échec ou succès, on sort de cette pensée binaire, c'est qu'est-ce que je fais de ce succès ?
Il faut avoir une grande grandeur d'âme, si j'ose dire.
Non, je pense qu'il faut avoir connu des échecs, surtout.
Ah, c'est ça.
C'est surtout ça. Ouais. Là, vous voyez bien, autour de vous, des gens qui sont un peu âgés, qui ont bien réussi, voire très bien, et qui sont encore sympas, avec un sens de l'empathie, qui parlent, qui écoutent, c'est des gens qui ont connu l'échec. En fait, l'échec humanise, l'échec donne de l'empathie. Et les autres, on les connaît, hein. Eh bien, qu'est-ce qui leur a manqué ? Pourquoi ils sont devenus des êtres suffisants, arrogants, sans écoute, sans empathie ? Parce qu'ils n'ont pas connu l'échec. Il faut quand même rappeler que l'échec humanise. Pour une raison anthropologique, c'est que nous sommes les animaux ratés. Au fond, l'échec est notre condition. Il n'y a qu'à voir un enfant à la naissance, un nouveau-né, vous voyez bien que c'est un prématuré, il est inachevé. À la différence, je sais pas, du poulain, par exemple, qui va trotter au bout d'une heure. Donc, il y a entre le ratage et notre liberté, entre le ratage et notre condition, une vraie relation co-substantielle. C'est pour ça
pour apprendre à marcher, un enfant, il doit tomber, il doit essayer, il ne doit pas y arriver au début.
En moyenne, c'est 2000 fois.
2000 ouais, fois
2000 ratages avant 2000 de réussir ratages à marcher. Avant une réussite. C'est ça, donc c'est beaucoup quand même. Et on le prend pas mal, hein. On se sent pas un raté quand on n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Pourtant, si on se comparait au poulain, on serait consterné. Et ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que nous sommes des animaux ratés, nous n'avons pas simplement à obéir à l'instinct naturel pour savoir comment nous comporter, et nous substituons à cet instinct donc défaillant, eh bien une culture du ratage, c'est-à-dire j'essaye, je tâtonne, je me rectifie, j'écoute les conseils, d'où l'empathie, d'où la famille, d'où l'éducation, d'où la culture, vous comprenez, tout ça.
Notre humanité découlerait de nos échecs. Vous citez ouais. aussi, Charles Pépin, Henri Bergson, le philosophe. L'homme est le seul animal dont l'action soit mal assurée, qui hésite et qui tâtonne, qui forme des projets avec l'espoir de réussir et la crainte d'échouer, les et deux voilà. en même temps.
Ben oui, et puis c'est surtout cette notion de tâtonnement qui est très belle. Pourquoi tâtonnons-nous? Parce qu'en nous, l'instinct naturel est défaillant. L'araignée ne tâtonne pas quand elle tisse sa toile. Elle sait ce qu'elle a à faire. Et
elle ne se plante pas d'abord.
C'est un animal réussi, quoi. Mmh. En gros. Nous sommes des animaux ratés, mais cette dimension ratée est notre liberté, au fond. C'est marrant comme résonance. Hein. Raté, liberté, on ne l'entend pas comme ça, au premier abord. Et moi, mon but, c'est qu'on l'entende comme ça. Ben, pourquoi je rate? Parce que je ne suis pas programmé pour réussir. Parce que je ne suis pas programmé par l'instinct naturel. Je ne suis pas un logiciel. C'est d'ailleurs pourquoi ça m'énerve tant. Cette métaphore informatique ou procédurielle qui l'emporte aujourd'hui
chez certains coachs, serait un ordinateur.
Chez certains théoriciens de la confiance en soi, chez certains amateurs de psychologie positive, pas tous heureusement, qui disent on va vous reprogrammer pour le succès, on va réinitialiser en vous le logiciel de la confiance, etc. Ben non, c'est plus compliqué que ça, et tant mieux, et on n'est pas des machines, on n'est pas des logiciels. Donc nous ratons parce que nous sommes libres de progresser et d'apprendre de nos erreurs.
À ce sujet et aux animaux ratés que nous sommes, je vous propose une nouvelle question soulevée par Mathieu Novak du mensuel Science et Avenir.
Est-ce qu'on peut vivre sans avoir peur de l'échec?
C'est une très belle question. La réponse est non. C'est bien d'avoir peur de l'échec. Et simplement, il ne faut pas que cette peur soit paralysante. Il faut qu'elle soit un moteur. Donc, il faut faire avec. Et la meilleure façon de faire avec, c'est de comprendre qu'elle est légitime. Parce que ça fait mal d'échouer, parce que le regard des autres n'est pas facile à accepter.
Et ça fait vraiment mal? Pourquoi ça fait si mal?
Ça fait mal quand même, parce qu'on est dans une civilisation de la comparaison. En plus, avec les réseaux sociaux, c'est de pire en pire. Parce que parfois, on associe à la réussite des choses qui vont être possibles dans sa vie et qu'on s'en trouve privé. Enfin, il ne s'agit pas de positiver à outrance. L'échec est douloureux. Donc avoir peur de l'échec, je trouve ça sain. La vraie question, c'est comment je fais pour pas que cette peur me paralyse et pour que cette peur soit un moteur. Eh bien, moi, je pense qu'un bon conseil à donner aux gens, c'est de dire « Vas-y avec ta peur », comme le bluesman qui chante avec sa solitude. « Vas-y avec elle. N'attends pas d'avoir éradiqué la peur pour y aller. » Au fond, la confiance en soi, c'est ça. C'est pas être sûr de soi. C'est savoir faire avec la peur, avec le doute, avec l'incertitude. En sachant, en effet, que ce qui peut m'apaiser et faire que cette peur soit supportable, c'est aussi que je me dise qu'en cas d'échec, j'aurais appris, qu'en cas d'échec, j'aurais progressé, qu'en cas d'échec, j'aurais rencontré des gens, peut-être bienveillants, etc. Et que l'échec n'est pas simplement un échec.
Autour de la question comment nos échecs peuvent-ils nous inspirer, je rappelle aussi que votre dernier livre s'intitule « La confiance en soi » et que c'est peut-être justement la suite des vertus de l'échec. On va réfléchir à la manière de se remettre de ces échecs, comment se remettre d'un échec amoureux par exemple. On y réfléchit en écoutant Barbara sur RFI. Dis-moi quand tu reviendras, c'est votre choix, Charles Pépin.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrapera plus guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Barbara sur RFI, qui a le mal d'amour, quand reviendras-tu? Pourquoi ce choix, Charles Pépin?
Vous savez, je pense que c'est une des plus belles chansons de tous les temps. Et il aurait été impossible qu'elle l'écrive si elle n'avait connu tous les échecs qu'elle a connus. Donc rien que ça, c'est une preuve par l'exemple de la vertu de l'échec, parce que cette chanson est l'enfant de l'échec au fond. Maintenant...
Oui, de la souffrance, du mal-être, ouais, des ratages.
Puis, il faut aussi savoir qu'elle a mis 10-15 ans à percer. Elle a connu les sifflets, les injures, les tomates. Elle plaisait pas du tout au début et l'échec a été pour elle l'occasion en fait, de persévérer dans son désir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire qu'on n'a pas encore dit. C'est que c'est un très bon test pour le désir, l'échec. Si j'ai encore envie, malgré l'échec, c'est que j'ai vraiment très envie. Et au fond, parfois, bah, j'échoue et puis je fais autre chose. Je me dis, en fait, c'est pas si important.
Ça donc, permet en fait, de toucher son vrai désir, l'échec.
Exactement. C'est un test pour le désir. C'est l'épreuve du désir, au fond. Alors après, il faut quand même distinguer le désir conscient et le désir inconscient. On peut avoir, elle, Barbara, De Gaulle, Churchill, ils ont un désir conscient. Ils galèrent. Et ils mesurent que leur désir conscient est vraiment leur graal. Et ils continuent et ils finissent par réussir. Donc là, il y a beaucoup de courage, de persévérance. Il y a une forme d'héroïsme. Et puis, il y a le désir inconscient. Et là, ça va plus vite en général, si j'arrête d'être dans le déni, et si je me dis, mais comment ça se fait que j'ai raté un truc 3 fois alors que ça va, c'est pas normal. Alors peut-être, c'est que j'ai envie de rater, c'est que j'ai fait exprès de rater, au fond.
J'ai envie de faire autre chose.
Je pense que quand par exemple, Charles Darwin rate sa première année en fac de médecine, puis rate sa première année en fac de théologie, c'est un acte manqué. C'est parce qu'il veut faire autre chose, parce qu'il désire inconsciemment s'embarquer sur le Beagle pour observer les espèces animales et réinventer ce que c'est que l'humain. Donc voilà, n'oublions pas que parfois nos échecs sont des actes manqués, c'est-à-dire au fond des réussites de l'inconscient.
Comment changer de regard sur tous nos échecs? Nous continuons de nous interroger en votre compagnie, Charles Pépin, sur les vertus de l'échec, titre de votre essai qui ne cesse, on se rend compte, d'ouvrir de nouvelles questions, comme celle que vous pose tout de suite Carole Châtelain, rédactrice en chef de Science et Avenir.
Est-ce que dans ce qu'on appelle les vertus de l'échec, est-ce qu'on peut y voir une équivalence avec la résilience? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça met en jeu chez nous quand on subit un échec? Est-ce que le cerveau est obligé de mettre en place de nouvelles stratégies? Est-ce qu'il y a une vraie lecture neuroscientifique de l'échec?
Votre réponse, Charles Pépin.
Alors, j'ai déjà parlé des neurosciences en parlant de cette créativité neuronale qui a lieu au moment de l'erreur. Sur la résilience, oui, il y a un gros terrain commun. Mais il y a une différence. Le terrain commun, c'est qu'en effet, on a de la ressource en nous, parfois insoupçonnée, qu'on va mesurer à l'occasion de l'échec. Dans le cas de la résilience, c'est moins l'échec que l'épreuve. Et la résilience, ça vient des métaux, hein, c'est la capacité d'un métal de retrouver sa forme initiale après avoir été tordu. Donc je suis d'accord avec cette idée de la ressource. Mais j'aime pas trop la métaphore, on va dire mécanique. Le métal est tordu, il retrouve sa place initiale. C'est ça la résilience. Je préfère une métaphore chimique de l'ordre de la métamorphose. C'est-à-dire, en moi, il y a de la blessure, de la vexation.
Je ne suis plus le même, je suis blessé.
Mais de ça, je vais faire autre chose. C'est-à-dire que je vais métamorphoser en moi quelque chose de l'ordre du ressentiment, ou de la blessure, ou de la tristesse, ou de la honte aussi. Et ce n'est pas que je vais le chasser en retrouvant celui que j'étais avant. C'est que je vais en faire le miel de mon progrès et de ma réussite. Moi, j'aime bien opposer aux métaphores de la culture, on va dire mécaniste, la métaphore chimique. Chez Freud, par exemple, on parle de sublimation. J'aime bien cette idée qu'on ne perd rien et tout se transforme. Donc il ne faut pas croire que, par exemple, il n'y a rien de plus inefficace que de ne pas penser à ce qui blesse. De se forcer à ne pas y penser, ça fait que ça revient, il y a un effet de retour implacable et on en souffre beaucoup plus et on est mal. Alors qu'au Au contraire, on peut accueillir les choses, notamment le sentiment de l'échec.
Voilà, sentiment de l'échec et la souffrance aussi, ça veut dire accueillir cette souffrance-là.
Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est pas très agréable à entendre, mais l'échec le plus vertueux, c'est celui que j'ai un moment enduré et qui m'a fait souffrir et qui m'a fait grandir à l'occasion de cette souffrance, mais aussi retoucher le sol. C'est ça l'humilité, hein. Humus, c'est le sol. Et donc je pense que si on...
Ça nous fait redescendre.
Si on dit aux gens,
pour le meilleur comme pour le pire, mais ça nous fait redescendre.
Si on dit aux gens, comme on leur dit dans la Silicon Valley par exemple, ou certains coachs à l'américaine, oui, l'échec est une fête, l'échec est un diplôme, tu es une balle rebondissante et tu vas rebondir dès que tu échoues, eh ben non, on n'a rien compris. En fait, ce qui est intéressant dans l'échec, c'est qu'à un moment, j'arrête de rebondir, à un moment, c'est dur, quoi. À un moment, en fait, je je touche un réel qui est ma limite. Et le réel est plus fort que moi. Et c'est ça, la vraie humilité. Mais c'est le début de la créativité. Parce que quand je comprends que le réel est plus fort que moi, quand je respecte le réel, quand je sors du bras de fer, du rapport de force, pour jouer avec les forces en présence, alors je deviens un créateur, au fond. Vous savez, souvent, on croit que les grands créateurs, Proust, Picasso, Léonard de Vinci, on les fantasme comme des démiurges qui ne connaissent pas l'échec. Comme si ils étaient tout puissants, au fond, et que le réel était une pâte à modeler, quoi. Mais pas du tout. Alors, Picasso, un peu plus que... Enfin, pour Picasso, c'était quand même assez facile pour lui, la création. Mais malgré tout, il avait quand même la résistance du réel. Léonard de Vinci, il mettait 7 ans à faire un tableau. Et si vous regardez les manuscrits de raturés de Proust à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, c'est que rature, 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 rature. Il n'y a pas 3 mots qui tombent bien d'un coup. Et donc pourtant... ça veut dire, juste finir le raisonnement, ça veut dire qu'en fait, l'humilité et la créativité vont ensemble. C'est ça que j'essaye de dire. Et du coup, l'échec, en nous rendant humbles, peut nous rendre plus créatifs. Et ça, on ne le dit jamais. On s'arrête à l'humilité. Mais la créativité, c'est de reconnaître aussi que le réel a une matière et que je dois faire avec. Regardez Steve Jobs, il avait perdu sa créativité parce qu'il était devenu arrogant, il se croyait tout puissant. Et puis, il a fait des erreurs, il s'est fait virer par les actionnaires, il s'est retrouvé viré de la boîte qu'il avait créée. Et bien là, l'humilité l'a fait se recentrer vers sa créativité parce qu'il s'est dit, au fond, où est-ce que je suis bon à la base? Je suis bon pour créer des composants électroniques innovants. Et il s'est mis à refaire ça. Et ça a remarché à partir de son point de compétence, à partir de sa zone de créativité qu'il a retrouvée en ayant d'abord retrouvé le sol de l'humilité.
Est-ce que c'est pas aujourd'hui aussi une forme de rébellion? Parce qu'on n'est quand même pas dans un monde et dans des sociétés, on l'a dit en France notamment, qui valorise l'échec, mais qui nous montre comment souffrir un échec et le vivre et le ressentir peut nous emmener vers plus de créativité. Aujourd'hui en France, c'est un moyen de sélectionner, hein, notamment dans les grands concours, de sélectionner pour le meilleur, mais peut-être aussi pour le pire. C'est tout le sens d'une nouvelle question soulevée par Théo Martin. S'il est étudiant en philosophie à l'ENS, École normale supérieure, et à Paris 1, est en train de passer l'agrégation de philosophie.
Bonjour Charles Pépin, je me demandais si ça a un sens de parler d'échec si on n'est pas déjà dans une logique de compétition ou de concurrence dès le départ. Est-ce que parler d'échec, ça ne nous place pas déjà dans une logique de compétition ou de toute façon d'emblée, il n'y a pas de place pour tout le monde. Par exemple, si 1000 personnes passent un concours et qu'il n'y a que 30 places, forcément à la fin, il y aura des gens qui n'y auront pas accès et qui auront donc échoué. Et je me demandais du coup si tirer des vertus de tels échecs, c'était pas en fait cautionner cette logique de compétition, de concurrence qui organise déjà dès le départ des échecs assurés puisqu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et dans la dimension de culpabilité qu'il y a souvent dans les échecs qu'on vit, je me demandais si c'était pas une façon pour ce système qui organise l'échec de faire que, comme il n'y a pas de place pour tout le monde, il va falloir que ceux qui n'auront pas de place se disent que c'est de leur faute. Et donc que cette culpabilité de l'échec était une façon de légitimer le fait qu'en fait on n'a pas les moyens de donner, ou on ne veut pas donner une place à tout le monde.
Que pouvez-vous répondre, cher Pépin ?
Alors là, l'attaque est puissante. Mm-hmm. Peut-être qu'il y a une confusion entre l'échec et la défaite, ou entre l'échec et être perdant. Et effectivement, dans une logique de compétition, je peux vivre une défaite, ou alors je peux perdre alors qu'il y a des gagnants. Si on parle d'échec, c'est plus par rapport à soi et à un sentiment d'échec par rapport à son propre désir. Mais je comprends quand même l'objection de ce monsieur, qui est une objection très pertinente. Elle est en partie vraie une fois qu'on a précisé cette question de terme. Mais alors là, j'ai deux remarques. La première, c'est oui, mais si on ne peut pas changer le système, alors autant faire de quelque chose de vertueux de ces échecs, quand même. Et la deuxième, c'est je crois quand même que cette compétition... Elle est dans notre histoire, hein, notamment de l'évolution de l'espèce. Mmh. Et elle n'est pas... La compétition ne dit pas la vérité entière de ce que nous sommes, mais une part de ce que nous sommes. Enfin, autre précision, j'ai constaté quelque chose d'intéressant par rapport à l'agrégation de philosophie que vous préparez, monsieur. Je l'ai constaté avec 20 ans de recul. Et c'est très intéressant. C'est qu'en fait, mes amis qui ont raté l'agrégation de philosophie plusieurs fois... En fait, sont meilleurs en philo que ceux qui l'ont eu du premier coup. Ah. Mais pourquoi ? C'est simple. Parce qu'en ratant, ils ont compris que c'était leur désir et ils ont insisté. Ils ont plus lu en la passant plusieurs fois, ils se sont plus arrêtés sur des textes parce qu'ils ont eu plusieurs fois un programme très ample. Et le résultat, c'est qu'ils sont je dirais pas meilleurs professeurs, mais ils ont plus fréquenté les philosophes grâce à ces échecs répétés, à l'agrégation de philosophie. Donc c'est quand même intéressant.
Des vertus de l'échec, est-ce que notre capacité de rebond face aux échecs, elle est illimitée, Charles Pépin ? Est-ce que parfois des échecs ne peuvent pas aussi nous terrasser ?
Bien sûr que si. Il est clair qu'il y a des échecs dont on ne relève pas. Il y a des échecs qui mènent au suicide. Alors après, on peut toujours penser que sous un certain regard, un suicide peut être une réussite, mais il faut quand même avoir un peu de prudence et un minimum de respect par rapport à ça. Et puis aussi, il y a une question sociale, plus dure, que je n'ai pas posée, et qui n'est pas dans mon livre, je le reconnais. C'est un peu un livre pour riches, hein, comme souvent les livres de philosophie d'ailleurs. C'est que quand vous êtes né vraiment du mauvais côté, du mauvais côté du fleuve, dans la mauvaise zone de la banlieue, et dans la mauvaise région du mauvais pays, et que personne dans votre famille sur 5 générations n'a jamais eu de travail, que le chômage est la condition élémentaire comme une condition humaine, je ne pense pas que votre échec à trouver du boulot va être vertueux. Et donc, je crois qu'il y a quand même certains cas d'une réalité sociale vraiment dark, quoi, vraiment dure, où évidemment mes thèses ne s'appliquent pas, et j'en suis conscient. Toutefois, pour nuancer ce bémol, je pose quand même une série de conditions pour que l'échec puisse être vertueux, notamment pas de déni, pas d'identification, prendre le temps, être accompagné, tout ça. Et je crois que dans certains cas de cette réalité sociale très dure que j'ai évoquée, si ces conditions étaient réunies, alors on pourrait sauver quelques personnes. Pas toutes, évidemment, mais on pourrait nuancer la nuance, quoi.
Et on pourrait cheminer vers la sagesse, parce qu'au fond, accepter ces échecs et en faire une vertu, c'est certainement le travail d'une vie. J'ai envie de citer le début du poème de Kipling hein, que ouais, vous ouais. citez. Tu seras un homme, mon fils, les premiers vers. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un mot te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties sans un geste et sans un soupir. Ça, c'est la vraie sagesse, Charles Pépin.
Et puis, il y a aussi cette idée de repartir. Et de ne pas s'arrêter, de ne pas se fixer sur une étape. Que cette étape soit celle de l'échec ou celle du succès, eh bien, il faut continuer à avancer et être dans l'existentialisme et pas dans l'essentialisme.
Merci Charles Pépin.
Merci à vous.
De nous aider à continuer à avancer. Je rappelle le titre de cet essai, donc Les vertus de l'échec aux éditions Alary. Et je signale aussi donc la parution de La confiance en soi aux mêmes éditions Alary. Avis à nos auditeurs parisiens, vous donnez une conférence lundi prochain, le 28, Charles Pépin, au théâtre de la Porte Saint-Martin, carrément sur la confiance en soi. Avoir confiance en soi. On va se quitter là-dessus. Merci.
Merci beaucoup.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, amis auditeurs à l'esprit libre et curieux, pour un voyage extraordinaire à l'intérieur de notre cerveau, en compagnie de deux éminents neuroscientifiques qui ont dirigé un fascinant atlas du cerveau. Remue Ménage en perspective avec Hugo Violas à la réalisation et Tania Tsikounas en coulisses. Merci de votre fidélité et de votre interactivité. Surtout, restez curieux. À l'écoute de RFI, le prochain journal, c'est dans un peu plus d'une minute.
Non, il est dans l'eau.
Bonjour.